If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Nous sommes à France TV, nous sommes devant France Info, France TV, c'est conjoint, devant 3,2 millions de téléspectateurs. Il y a 5 voix qui sont en jeu, mais c'est les viewers qui vont voter. Cette fois-ci, vous ne mettez pas un E accent à Églantine, comme ça on est tous d'actualité. Et ce sera sur le pass vaccinal, un débat sur le pass vaccinal. Donc, le débat de cette campagne va porter sur nos libertés. Sont-elles menacées? La crise sanitaire les a-t-elle mis à mal? Des questions qu'on va se poser avec Jules de Kiss, puis vous, cher candidat, vous aurez à vous positionner.
Bah oui, parce que donc là, on est dans la réalité, on va parler de la question de nos libertés dans cette crise sanitaire. Ça a été un des sujets mis sur la table entre les interdictions qu'on a dû respecter d'une part depuis 2 ans et puis les obligations auxquelles il a fallu se soumettre également, les attestations, le port du masque, le pass sanitaire, puis le pass vaccinal. Enfin, on connaît tout ça et certains sont allés jusqu'à dire, vous l'avez certainement entendu, que la France était devenue une dictature sanitaire. Point de vue qui n'est pas majoritaire, mais sans aller jusque-là, il est vrai que l'équilibre entre à la fois la lutte contre le virus et le respect des libertés a toujours été en débat depuis plusieurs mois, à tel point que des convois de la liberté se sont formés, bien sûr, il y a 2 semaines, qui s'inspiraient des routiers canadiens qui ont voulu bloquer une partie du pays, notamment la ville d'Ottawa, pour protester contre l'obligation vaccinale qui les concernait. Nico, en France, donc, a été l'un des organisateurs de ces convois de la liberté, rencontré par France Info lors de son arrivée à Paris.
Nous sommes des gens pacifiques, on nous traite d'antipass, d'antivax, de tout ce qu'on veut. Alors c'est vrai que moi je suis antipass, hein, déterminé d'ailleurs. J'aimerais qu'il y ait de l'échange sur le sujet, quoi. Voilà, c'est ça que j'attends de cette France, c'est ça pour moi la démocratie. Vous voyez, je viens de me balader là dans les rues de Paris à l'instant, et j'aimerais être sur une terrasse avec mes compatriotes, et j'en souffre, et je pense que beaucoup de gens en souffrent comme moi. Et ce mouvement qui devrait être reçu les bras ouverts, parce qu'il pourrait être l'expression d'un pas d'accord, d'un ras-le-bol à certains endroits, il pourrait être reçu les bras ouverts, et je me rends compte que les gens comme moi ne sont pas entendus.
Voilà, vous entendez, Nico, j'aimerais qu'il y ait un échange sur ce sujet, sur la question des libertés. C'est ce que j'attends de cette France. C'est ça, pour moi, la démocratie. Sous-entendu, ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Alors, je vous demande, et je vais demander à Georges Sud en premier, et c'est une question que vous allez débattre. Vous êtes autour de la table, tous ensemble, présentés sur France TV. Vous allez tous vous exprimer. Vous pouvez aussi vous interpeller, reprendre vos arguments les uns les autres. Et la question que je vous pose, c'est: a-t-on trop embêté, ennuyé, dérangé les Français dans cette crise sanitaire? Est-ce qu'il y a eu trop d'obligations, trop d'interdictions? Georges Sud, vous en pensez quoi?
Écoutez, j'ai envie de vous dire que je pense que le seul moyen d'embêter plus les Français à l'heure actuelle, ça serait de leur coller un code barre sur les fesses et de leur scanner à chaque fois qu'ils vont boire un coup. Hein, le problème, c'est au-delà du pass vaccinal, c'est que le gouvernement n'a clairement aucune idée de ce qu'il est en train de faire. Alors on fait 2 pas en avant, 3 pas en arrière, ça fait 1 an et demi qu'on a l'impression de danser la gigue, hein, moi je vous dis. Donc oui, il est temps d'arrêter cette espèce de psychose. En plus, on est en train d'en sortir maintenant avec le dernier variant. Donc il est temps d'arrêter la folie et de revenir sur des bases saines. On peut traiter parfaitement le problème lié à la pandémie sans avoir recours à ce genre de mesures complètement disproportionnées.
D'accord, mais alors je comprends votre volonté, et c'est notre désir à tous, mais finalement ces contraintes pendant ces 2 dernières années n'ont-elles pas sauvé des Français ?
Elles ont très certainement sauvé des Français, mais ça, on n'a pas les chiffres, encore une fois, c'est ce que nous dit le gouvernement, on est censé le croire comme ça, basé sur je ne sais pas trop quoi, mais cependant, on ne sait pas si la pandémie aurait pu être gérée autrement. On aurait très certainement pu avoir recours à des mesures moins problématiques pour les Français, et ça aurait peut-être tout aussi bien marché.
Alors, quel genre de mesures?
Il y a des nombreux pays, madame,
oui,
il y a des nombreux pays qui n'ont pas recours recours au pass vaccinal et qui s'en sortent bien mieux que nous.
En faisant alors, comment, du coup, j'attends vos solutions, parce que là, constat d'échec, mes solutions.
En donnant plus de moyens aux hôpitaux, espèce de tête de linotte.
Alors, je vois qu'on m'attaque.
Très bien,
très personnellement.
Prenez la parole. Non, mais, je vous en prie, à vous.
En fait, c'est très simple.
Est-ce qu'on a trop embêté les Français?
Non, on n'a pas embêté les Français. En fait, ça ne fait plaisir à personne d'aller se faire vacciner. Ça ne fait plaisir à personne de faire des tests PCR. Ça ne me fait pas plaisir personnellement. N'empêche qu'il faut sauver des Français qui risquaient à tout moment de mourir du Covid. Donc, nous avons pris les mesures qui s'imposaient à nous. Et c'était à refaire, je le referai. Évidemment, vous constatez que la France n'est pas le seul pays dans le monde à avoir des difficultés avec la crise sanitaire. Preuve, il en est que ce n'est pas le gouvernement le problème, mais bien la maladie. Nous faisons tout pour endiguer le problème, pour reprendre la vie d'avant, auquel nous aspirons tous. Mais je constate que vous faites beaucoup de reproches sans apporter beaucoup de solutions. Mais ça, c'est typique des gens de votre bord qui râlent beaucoup sans apporter quoi que ce soit. Comme
excusez-moi, avant de réagir, je vais d'abord laisser la parole à Hippolyte. Hippolyte, est-ce qu'on a trop embêté les Français ou voulez-vous réagir à les interventions de Georges ou de Églantine?
Pour moi, tout ceci n'est qu'un symptôme de plus du délitement du pays. Évidemment, ce n'est qu'un symptôme de plus. Évidemment que ce pass vaccinal, ce pass nazitaire, n'est autre que, évidemment, c'est une vaste blague pour contrôler la population. Moi, je fais partie des gens nostalgiques de la France d'avant. La France des bons cafés, la France de Johnny Hallyday, en déplaise à monsieur, bien sûr, qui, évidemment, semble détester cet exilé fiscal. Évidemment, si ça lui plaît de cracher sur notre patrimoine, la gauche le fait parfaitement bien.
Pass nazitaire, vous avez dit nazi quand même.
Ah oui, 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 bien sûr, évidemment.
Donc le gouvernement sont des nazis pour vous?
Non, les gouvernements ne sont pas des nazis.
Le gouvernement... Déposez une deuxième plainte.
Pour avoir dit que vous n'étiez pas des nazis, vous déposez une plainte.
Non, mais vous assimilez le gouvernement à des...
Je pense que c'est effectivement une mesure liberticide. C'est une mesure liberticide.
Ah, là, vous changez de discours. D'un seul coup, face à la plainte, effectivement, là, vous avez dit passe nazitaire quand même. Ce sont des mots qui ont un sens. Respectez la France, monsieur. Vous êtes du côté des Français, mais.
Ah oui, bien plus que vous.
Ah oui,
oui,
non, mais alors là,
je pense que les cinq dernières années l'ont prouvé.
Avec des propos de la sorte, j'ai l'impression que vous oubliez, que vous avez une méconnaissance de l'histoire, de faire des parallèles. Écoutez, de la sorte, ça me choque
ça fait 20
profondément.
Ans. Ça
alors,
fait
Hippolyte, 20... Hippolyte, en un mot, est-ce que finalement, ces libertés, cette privation de liberté que vous ressentez, le passe nazitaire, comme vous dites, est-ce qu'il n'a pas sauvé des vies?
Non.
D'accord. Pour vous, non.
Non, certainement pas. Non. Non. Déjà, ce vaccin. Juste pour parler du vaccin.
Oui.
Est-ce que le vaccin marche-t-il? Est-ce que le vaccin marche, monsieur Pro?
Il y a des études.
Ah non, c'est pas. Là, on est sur France 2.
Pardon, excusez-moi. Monsieur Pujadas. Voilà. Est-ce que ce vaccin marche?
Moi, en tant que journaliste, j'ai oublié de vous dire qu'il fonctionne totalement.
Il fonctionne.
Y a des études. Tout le monde.
Ah,
est,
oui.
Tout le monde
personne, dit... personne n'a de problème une fois qu'il est vacciné.
Non, mais vous trouverez sur des millions de personnes quelques problèmes.
Allez.
Et enfin, Jocelyn, exprimez-vous. Voulez-vous réagir ou...
Absolument, voilà, absolument monsieur Tigre. C'est sérieux, cette question. On parle des libertés de nos compatriotes. Et alors, ce que j'entends depuis tout à l'heure, mais écoutez, alors, peut-être vaut-il mieux entendre ça que d'être sourd. Et encore, je me pose la question, entre monsieur Sud, qui d'une part nous dit qu'il faut arrêter d'embêter les Français et qui concède immédiatement après que sans doute le pass a sauvé des vies, il faudrait choisir monsieur, madame Benny Oui-Oui, qui trouve que c'est très bien, qu'on aurait pu enfermer encore davantage, ça aurait été mieux. Est-ce que j'ai besoin de commenter quant à monsieur? Le pass nazitaire, bon, j'ai besoin d'en rajouter. Il faut être sérieux, monsieur Tigre, sur cette question. Moi, je crois en effet que les mesures de contrainte ont sauvé des vies. Et je crois qu'elles étaient nécessaires.
Vous rejoignez l'Églantine, alors.
Encore faut-il savoir où elles l'étaient, monsieur Tigre. Parce que oui, dans les villes, on s'est contaminé. À Toulouse, notamment, on s'est contaminé. Mais à la campagne. Mais moi, quand j'étais chez moi, je sortais de ma ferme. Il n'y avait personne à 2 km à la ronde. Et il y avait malgré tout le confinement. Et il y avait malgré tout le pass vaccinal. Vous trouvez ça normal? Je pense que nous aurions dû avoir, depuis le début, une gestion territorialisée de cette question. Prendre en compte la réalité des territoires, laisser les ruraux tranquilles, les laisser se balader au milieu de leurs vaches, ne pas les sanctionner, ne pas leur mettre des PV quand ils se baladent à la plage, en plein air. Et oui, faire peser une contrainte supplémentaire sur les villes, ce sont elles qui ont fait proférer le Covid, monsieur Tigre.
Eh bien, en tout cas, c'est une idée très claire. Nous allons continuer. Jules de Kies, s'est-on trop habitué à voir nos libertés contraintes par la crise sanitaire?
On peut se poser la question et on a maintenant 2 ans de recul pour voir comment est-ce que les Français ont réagi à toutes ces mesures que vous êtes certains à dénoncer et d'autres à approuver. Le peuple français, parfois décrit comme un ensemble de Gaulois réfractaires par certains, on voit qu'il a globalement suivi à la lettre les mesures publiques mises en place, respect des confinements, les attestations, la vaccination et les rappels aussi pour avoir son passe. Les chiffres sont très élevés. Et c'est une obéissance qui s'explique assez aisément vu le contexte, mais qui pose aussi des questions, d'après le sociologue Jean Viard, des questions quasi philosophiques. Jean Viard, chroniqueur de France Info.
Moi, je crois qu'au fondamentalement, on suit les règles, d'abord parce qu'on a eu peur de ce virus, ensuite parce qu'on a peur de contaminer les autres, et puis à un moment, ben, on a remis notre confiance dans un gouvernement sur ce point-là, pas sur le reste. Hein. Et finalement, c'est plus facile de suivre la ligne, quoi. Quand on demande aux Français est-ce que vous êtes heureux, ben, ils sont plus heureux qu'avant la pandémie. C'est les chiffres du laboratoire ELAB. Quelque part, c'est vrai que quand on vous donne les règles à suivre, c'est reposant. C'est tout le danger hein, de ce genre de période. C'est qu'à un moment, on vous donne une règle, vous râlez un peu, vous la suivez, ça vous évite de réfléchir. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut faire très attention au retour des libertés à leur défense hein, dans ce genre de contexte.
Voilà le confort à suivre des règles édictées pour nous. Bon, c'est une obéissance qui n'est pas acquise dans le temps hein, et dans l'avenir, veut souligner Jean Viard, notamment si la peur du virus diminue.
Alors, comme le dit Jules et Jean Viard, finalement, aujourd'hui, on est peut-être un peu plus heureux, mais finalement, on a dû suivre des règles qu'on n'a pas décidées, nous, en tant que Français. On a décidé pour nous, dans un conseil de défense. On a eu aussi une sorte de management par la peur. On nous a dit, vous allez mourir, ou par la solidarité.
On a tous eu peur du virus au début, quand on n'en connaissait rien, et ce qui a poussé à suivre les règles.
Exactement. Et aussi l'appel à la solidarité. Nous allons arrêter l'activité pour sauver notamment au tout début les gens en EHPAD. Est-ce que pour vous, vous avez le sentiment que d'une part le gouvernement, il n'a pas finalement été à l'écoute des Français, mais plutôt il a pris des décisions en une certaine autonomie sans nous consulter? Ou est-ce qu'au contraire, il a pris les bonnes décisions parce qu'on était en situation de crise et autrement, le scénario aurait pu être catastrophique? Je pose la question à Jocelyn.
Bien sûr. Mais bien sûr que nous vivons de plus en plus dans une société de la peur et que cette peur amène le contrôle social. Mais enfin, on le voit bien, ce que nos compatriotes, nous tous, sommes en train d'accepter est absolument fascinant d'exagération. Mais enfin, et j'appelle celles et ceux qui nous écoutent à se souvenir de ce vent de liberté qui les gagne quand ils sortent de chez eux et qu'ils se retrouvent à la campagne. Souvenez-vous de cette liberté que vous avez à vous promener en forêt, à profiter des champs, des paysages français. Que celles et ceux qui m'écoutent partent à la montagne, viennent goûter le grand air, regardent les paysages et ils se souviendront parce qu'enfin, c'est un truc d'urbain encore de se laisser gagner par la peur, de se laisser enfermer chez soi, d'accepter de rester enterré dans son petit 30 mètres carrés parce qu'on ne peut pas se payer plus. Mais chez nous, à la campagne, venez voir, vous verrez, la France traditionnelle, elle, Monsieur Tigre, elle a gardé le goût de la liberté.
Merci Jocelyn. Hippolyte. Hippolyte, est-ce que ce gouvernement a pris des décisions sans l'avis des Français, évidemment, pour le bien des Français, finalement? Ou est-ce qu'il aurait dû consulter les Français?
Il aurait dû consulter les Français, mais déjà, c'était perdu d'avance. C'était perdu d'avance. Ce gouvernement, au final, au bout d'un an, on se souvient de la crise des Gilets jaunes, évidemment, les Français n'en voulaient déjà plus. Hein, les Français n'en voulaient déjà plus. Évidemment que ce gouvernement a eu une gestion catastrophique de la crise. C'est évident.
Et donc, vous, président, en 2020, face au coronavirus, vous auriez fait un référendum?
Déjà, j'aurais fermé toutes les frontières. Aucun avion ne se posait sur le territoire français à ce moment-là. Aucun avion. Certainement pas venu de Chine.
Même transportant des masques?
Même transportant des masques. On n'en aurait pas eu besoin, sous ma direction. Évidemment. La France est une passoire, Monsieur Tigre.
Donc, pour vous, il aurait fallu fermer les frontières très tôt?
Bien sûr.
Très bien. Églantine, est-ce que vous avez à réagir par rapport à ça? Vous, présidente, à la place d'Emmanuel Macron, finalement, qui est dans votre parti, qu'auriez-vous fait? La même chose?
Ah mais évidemment, en fait on était en situation de crise, on ne pouvait pas se permettre de faire un référendum pour consulter tous les Français, sachant que on rappelle quand même que les parlementaires ainsi que le président de la République est élu démocratiquement. Je tiens à le rappeler, on dirait qu'on est élu de droit divin alors que pas du tout, vous avez pu vous exprimer dans les suffrages, donc quelque part c'est quand même qu'on a la confiance du peuple. Ensuite, dans un second temps, les Français ont également été consultés. Je vous rappelle qu'on a tiré des Français au sort pour réfléchir à la stratégie vaccinale.
15 Français, madame.
Un peu plus, ils étaient 30.
Oh, oui. Oh, félicitations. Wow, quelle grande démocrate vous êtes.
C'est un tirage au sort. Laissez-moi finir, j'ai été poli avec vous. Mais en fait, vous êtes vraiment du côté où en fait, vous n'auriez pas fait comme ça, mais mis en situation de crise, vous auriez réagi autrement, bien évidemment. J'aimerais bien voir la situation. Et toujours est-il que nous avons sauvé énormément de vies, le vaccin a été mis en place très rapidement, la stratégie vaccinale s'est très bien passée, la mise en place du pass vaccinal a permis à énormément de Français de se vacciner à un moment où on stagnait au niveau des statistiques. Nous sommes des très bons élèves dans l'Europe au niveau de la vaccination. Je pense que nous n'avons pas à rougir de notre bilan et que beaucoup de Français seraient morts ou avec des conséquences du Covid long si on n'avait pas réagi aussi rapidement et avec autant de fermeté.
Quelle diction et quelle rhétorique. Merci Églantine. Je me tourne vers Georges Sud. Alors Georges Sud.
C'est bien beau tout ça, mais je ne sais pas à quel moment Madame Léveillé se réveille dans tout ça.
C'est Monsieur Léveillé et Madame du Beau Ménage.
Je vais vous appeler Madame Budget. Hein, parce que de toute façon,
mais vous méprisez vos adversaires, ça rendit très long sur la façon dont vous avez...
Pour la présidente de la France, mais plutôt pour la présidente de la Banque de France. Parce que la seule chose que vous avez essayé de sauver pendant cette pandémie, c'est l'économie. Alors bon, j'espère qu'elle va bien. Hein, vous me direz...
Avec une économie effondrée, on serait loin là.
Elle m'enverra une carte postale de là où elle est, mais en tout cas, c'est pas dans un hôpital. Parce que c'est pas là-bas qu'elle aurait pu se faire soigner, moi je vous dis. Donc, pendant ce temps, on a Monsieur Saint-Jean qui nous raconte ses aventures à Hobbitbourg. Bon, alors,
C'est sérieux, la ruralité. Vous parlez de votre ville. Vous parlez de votre ville de Toulouse.
C'est pour ça
c'est
que...
Le sujet est trop sérieux
pour qu'on vous laisse parler.
Monsieur Sud, je n'ai pas entendu. Vous, président, en 2020...
Mais parce qu'il n'en sait rien. Mais vous vous rendez compte. Ça suffit, j'ai l'impression de marcher sur la tête. On parle d'une pandémie, mon ami, et on parle de problèmes de santé, et aucun de vous n'a parlé des hôpitaux. C'est quand même dingue, ça.
Vous voulez dire les médecins que vous avez volé au champ et que vous donné à vos urbains.
Ça va vous surprendre, mais je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il y a des déserts médicaux.
Oui,
et je suis d'accord.
Vous le découvrez.
Ça fait partie. Ça fait bien longtemps que je le sais. Vous savez que ça fait bien longtemps que vous ne faites rien. Vous savez que Toulouse, ça fait partie de la province, hein, pour les gens qui habitent à Paris.
Oui, et voilà, pour ceux qui habitent à la campagne, alors, Toulouse, c'est la concentration absolue des services publics.
Jocelyn, s'il vous plaît.
Vous écartez du sujet, on est en train de parler de la pandémie.
Si j'ai bien compris, Georges Sud, vous, président, en fait, vous n'auriez pas fermé les frontières.
On a un investissement massif
dans les médecins,
dans les hôpitaux, dans les médecins, en ville, à la campagne aussi. C'est ça qu'il nous faut, parce que c'est ça qui aurait sauvé des gens. C'est pas un masque sur la tête, je l'enlève, je le mets sur la joue, je sais pas quoi. Là, non, c'est non.
Alors,
c'est
pas ça. De masque. Pas de passe sanitaire.
Non mais bien sûr que si, le masque évidemment que c'est utile, évidemment qu'il faut le garder. Ne me faites pas dire, vous déformez mes propos.
Je suis en train de parler des propos du gouvernement qui fait un pas en arrière. Le masque, le passe ou pas?
Le passe a été utile à un moment, maintenant il ne l'est plus. Donc ça s'arrête de parler du passé, on est là pour se faire élire président de Bedon, pas le président d'hier.
Mais la question, c'est vous en 2020, vous donnez de l'argent aux médecins, vous faites le passe et vous
mettez
le masque.
Bien sûr que oui, c'est les médecins qui sauvent les gens. Vous croyez quoi, que le virus il va arriver, il va avoir votre passe anti-Covid, la machine, il va s'arrêter?
Donc la seule différence avec le gouvernement Macron, votre proposition c'était juste de plus investir dans les hôpitaux.
Mais bien sûr que oui, ça aurait résolu combien de problèmes, je vous demande. Combien de problèmes?
Il faut quand même 10 ans pour former un médecin, monsieur.
Non mais évidemment, mais peut-être parce que ça fait 20 ans qu'on a leur clique au pouvoir, ça fait 20 ans qu'ils massacrent les hôpitaux publics.
20 ans, oui, effectivement, la même clique, effectivement, mais vous étiez parti à l'époque de monsieur Hollande.
Je ne sais pas d'où vous ressortez ça.
Bah, excusez-moi, la gauche était au pouvoir à ce moment-là.
C'est peut-être une attaque gratuite, effectivement, mais en tout cas, c'est la fin de notre débat et... On va voir par un sondage qui a voté. Avant que le sondage arrive, je tiens à présenter mes excuses à Églantine, parce que tu avais eu 0%. Mais sache que pour le premier sondage, ils ont recompté et tu es arrivé en tête.
Ah.
Donc, pour compenser un petit peu, je te donne deux classes moyennes, mais pas plus. Pourquoi ? Parce que parfois, effectivement, la réussite en politique, c'est aussi de la chance. Et là, tu as eu un bug. Et parfois, un bug, ça peut nous faire perdre. Voilà.
Le fameux bug.
Voilà. Et est-ce que je peux avoir le résultat du sondage, s'il vous plaît ? C'est possible, la régie ? Ah ! Et nous avons Églantine encore, favorite. Hein. On voit que le macronisme se porte bien. Donc, le deuxième, c'est Jocelyn Saint-Jean. Donc, tu vas gagner. Alors, c'était sur le pass. Les passes. Donc, là, tu as un entrepreneur, un retraité, un classe moyenne, un précaire et un riche. Et... Jocelyn, je te permets de prendre deux voix à qui tu veux.
Oh bah, je vais aller les prendre chez ma collègue du gouvernement.
Oui. Très bien.
Ah non, une chez ma collègue du gouvernement, une chez le maire de Toulouse.
Bah, tu peux vous donner la voix que vous voulez à votre camarade, qui est arrivé deuxième.
Tu peux me donner une voix.
Oui, mais laquelle ?
Catastrophique.
C'est catastrophique. En tout cas, c'est reparti. C'est qui a commencé ? C'était. Donc, ça va être toi, Hippolyte. Hippolyte, ton directeur de campagne revient vers toi. Et il dit c'est le moment ou jamais, je pense, de faire un meeting ou une déclaration à la télévision pour il faut engranger des voix. Là, on est sur une mauvaise pente dans les sondages. Donc, un meeting, ça pourrait. Un bon meeting, ça pourrait nous. Ou alors une déclaration choc. Qu'est-ce que tu préfères ?
Non, je vais faire un meeting.
Très bien, un meeting. Dis-moi une lettre de l'alphabet entre. Alors, une lettre de l'alphabet, entre A et Z.
M.
M, ce sera un meeting à Toulouse. Toulouse, 486 000 habitants.
Ça veut dire sa venue.
Ça veut dire
la démocratie,
que tu te bats pour 4 voix. C'est la quatrième ville de France. C'est énorme, si tu réussis. Alors, tu te retrouves à Toulouse. Donc, Hippolyte Léveillé arrive à Toulouse. Il va falloir que tu fasses un petit discours. Et donc, ton discours, c'est... le gentilé, donc par exemple si c'était à Montpellier, Montpellierin, Montpellierenne. Ensuite tu dis, enfin Toulouse c'est cette ville extraordinaire parce que, mais le problème de Toulouse c'est ça, ok ?
Ok.
Je te laisse.
Très bien. Toulousain, Toulousaine, Toulouse. Toulouse dans mon cœur pour toujours, évidemment. Toulouse, sa place du Capitole, l'église Saint-Cernin bien sûr, que de plaisir évidemment, la ville rose évidemment, la ville rose, la ville du spatial aussi, c'est la cité de l'espace évidemment, c'est la ville des nouvelles technologies, Toulouse. Mais Toulouse, c'est hélas évidemment Georges Sud, un maire, bon, vous le savez mieux, vous êtes comment dire, aux premières loges pour savoir qu'il est incapable, complètement incapable de diriger la France. Évidemment, ses propos sur Johnny Hallyday, évidemment, répugnants encore une fois. Hélas, moi je vous promets, cher Toulousain, que si je suis élu président de la République française, notre beau pays, le plus beau pays du monde évidemment, je mettrai un candidat à la hauteur de la ville pour se présenter au municipal à Toulouse, évidemment.
C'est une très belle déclaration, donc on va lancer un dé et on va rajouter 2 points.
C'est la blouse de la RNG.
Les militants étaient nombreux, mais le discours d'Hippolyte Léveillé a semble-t-il peiné à convaincre. Petite salve d'applaudissements à la fin de la réunion, mais ça n'a pas vraiment contredit l'impression générale devant ce spectacle. C'est donc un meeting en demi-teinte pour ce candidat à la présidentielle.
En demi-teinte, mais dans une ville très peuplée, donc tu gagnes 3 voix. Les meetings, ça rapporte beaucoup. Églantine, tu n'as plus de casserole. Donc, ton conseiller Lucas te dit, c'est le moment jamais de faire un meeting ou alors de faire une déclaration choc à la télévision.
Un meeting.
Alors, donne-moi une lettre entre A et Z, mais pas M.
C.
Ce sera un meeting dans la belle ville de Nîmes. Donc, Nîmes, 149 000 habitants, ce sera pour 2 voix. Donc, tu arrives à Nîmes, donc toujours pareil, Montpellierin, Montpellierenne. Nîmes, c'est merveilleux parce que, mais le problème de Nîmes, c'est ça. Je t'écoute.
Nîmoise, Nîmois, merci de m'accueillir dans vos si belles villes avec les arènes. Et je n'ai pas besoin de citer le reste, vous le connaissez déjà très bien par vous-même. Les arènes de Nîmes sont merveilleuses et j'ai eu l'occasion de passer un moment en ces lieux qui m'ont ému par leur histoire. Merci de m'accueillir en cette terre pour ce meeting où je vous vois très nombreux et je suis ravie de vous compter parmi nous, parmi vos soutiens, parmi la France de demain. Je suis là pour vous espérer continuer avec vous, pour briguer ce nouveau mandat, pour continuer les efforts que nous avons mis depuis 5 ans pour proposer autre chose que la sempiternelle gauche ou droite. J'espère vous trouver nombreux d'ici là.
Je te donne 1 point parce que au niveau des problèmes, tu n'as pas été très explicite.
J'ai oublié.
Tu veux parler des problèmes ? Vas-y. Quel est le problème de Nîmes ?
Le problème de Nîmes, c'est son insécurité. Et pour cela, je renforcerai la police en donnant plus de moyens encore pour lutter contre l'insécurité qui se trouve en centre-ville, près de la gare, comme vous le savez, et pour enfin retrouver un climat de confiance pour les résidents locaux.
Écoute, c'est pas mal. Je te donne quand même 1 point. Voilà, parce que c'est bien, mais voilà. 1 point, lançons un dé pour Églantine. 2 et 1, 3.
Ces images feront date dans la petite histoire de la politique. Une candidate décoiffée par le vent, trempée par la pluie, devant une scène et des banderoles qui s'envolent. Bref, son dernier meeting est un fiasco. Mieux vaut une tempête de ce genre qu'un ouragan politique, tente-t-on de se rassurer dans les pics dans l'équipe d'Églantine Arnoux, tout en précisant que la prochaine fois, on regardera de plus près la météo.
Tu gagnes quand même 500 000 voix. Voilà. Cher Georges Sud, ton conseiller te dit, tu t'as perdu une voix la dernière fois, enfin, tu aurais pu perdre une voix si tu en avais gagné, parce qu'ils t'ont, ils t'ont relancé sur Johnny. Est-ce que, tu veux en parler à la télé ou est-ce qu'on fait un meeting? Un meeting, ça rapporte beaucoup de voix. T'as vu l'autre jour, non, j'ai vu, à Toulouse,
meeting,
là,
je fais un meeting plutôt.
On l'a un peu mauvaise sur Toulouse, hein. Il te le dit, parce que...
Oui, mais ça va, il n'y avait personne.
Ouais, ça s'est plutôt bien passé. Mais en tout cas, vas-y, dis-moi une lettre entre...
F,
ça va se passer à Aix-en-Provence. 143 000 habitants, on se bat pour deux voix. Donc, toujours la même chose, le gentilet, Montpellierin. Pourquoi la ville d'Aix-en-Provence hyper géniale et c'est quoi le problème d'Aix-en-Provence? Je t'écoute.
Habitants d'Aix-en-Provence. Attends, tu peux répéter, excuse-moi.
Donc, Montpellierin, Montpellierenne.
Oui.
Ensuite, votre ville est extraordinaire parce que... Oui. Et votre problème, c'est ça.
D'accord.
Habitants d'Aix-en-Provence, votre ville est extraordinaire. J'ai une affection toute particulière pour votre ville parce que savez-vous que ma mère a fait ses études de dessin ici. Voilà. Donc, je suis moi-même venu à de nombreuses reprises pour visiter votre belle ville si ensoleillée, carrefour culturel du sud de la France.
Très bien.
Le problème de votre ville, c'est que le gouvernement vous a abandonné. Le gouvernement a abandonné vos services publics. Il a abandonné votre bassin d'emploi qui est sinistré. Donc, quand je serai président, et je le serai, croyez-moi, je réinvestirai massivement dans nos campagnes pour refaire venir l'emploi et réindustrialiser la région. Et Dieu sait que vous le méritez, parce que comme le soleil et comme la région et le climat de cette région, vous êtes chaleureux.
Alors c'est très bien, à part qu'il n'y a pas trop de problèmes d'emploi quand même à Aix. Il y a... Bon bref, mais c'était bien. Je te mets un point de plus, on va lancer les dés. Allez les dés. Habituellement, on aurait lancé un vrai dé, mais bon. 3, donc 4. 4, Jules de Kiss, le meeting de Georges Sud à Aix-en-Provence.
Une salle remplie et enthousiaste, des annonces applaudies par la petite foule. C'est un meeting réussi pour Georges Sud, le candidat à la présidentielle. Il était tout sourire lors du petit bain de foule et des échanges avec les militants qui ont suivi son discours.
Tu as gagné le maximum possible pour cette voie, un entrepreneur, un étudiant. Merci. Voilà. Et enfin, Jocelyn, Julien, ton directeur de campagne, te dit qu'est-ce qu'on fait? Un meeting comme tous les autres, ils ont tous fait des meetings. Ou alors, c'est le moment de faire peut-être autre chose.
Eh bien non, justement, nous allons prendre notre courage à deux mains et aller faire un meeting dans une ville de France.
Très bien. Alors, une lettre entre A et Z.
P.
P, ce sera à Montpellier. Montpellier, 290 000 habitants, se bat pour trois voix. Donc, tu as compris, je te laisse faire ton discours.
Montpellierin, Montpellierenne, chers amis, chers urbains qui êtes venus m'écouter, et je vous en remercie. Chers amis de la ruralité qui êtes venus de la périphérie de Montpellier pour entendre parler de campagne. Eh bien oui, je suis venu à votre rencontre dans cette belle ville de Montpellier, cette ville de Montpellier, carrefour entre cette France ancienne, cette France des traditions et la modernité, et le retour de l'investissement dans l'économie, dans l'internet. Nous sommes ici à mi-chemin entre le passé et l'avenir. C'est ce que je veux incarner par ma campagne. Et en même temps, Montpellier, cet endroit où l'insécurité évidemment grandissante dans certains quartiers, eh bien, j'ai deux choses à vous dire. La première, c'est que moi, président de la République, je ramènerai l'ordre partout en France, dans nos campagnes et dans nos villes. Les traditions, l'ordre, la police, c'est absolument crucial, il faudra réinvestir sur tous ces sujets. Et la deuxième, c'est que oui, chers amis de Montpellier, il va falloir partager, il va falloir donner à vos campagnes. Vous ne pouvez pas vous féliciter d'être dans une ville riche et de voir à quelques centaines de kilomètres des campagnes dépeuplées où pas un médecin ne pratique, où il n'y a plus d'école.
Bref, on a compris.
C'est ce que nous ferons ici.
Très bien. Je vais te donner un point parce qu'il y a une bonne notion de ce qu'est Montpellier. Après, sur la problématique, c'est un petit peu compliqué. On peut lancer les dés. C'est un...
Pas généreux.
Donc 3.
3. Jocelyn Saint-Jean a tenté de chanter l'hymne de ses campagnes, mais c'est un meeting en demi-teinte aujourd'hui pour lui. Les militants étaient nombreux, mais le discours n'a pas vraiment convaincu, assez peu d'applaudissements d'ailleurs. Et les produits dérivés à l'effigie de Jocelyn Saint-Jean n'ont pas vraiment trouvé preneur non plus.
Tu gagnes quand même un super riche et un bobo, voilà.
Super riche.
Et je continue avec toi, Jocelyn, dis-moi un chiffre entre 1 et 47.
42.
Déjà dit.
43. C'est pas grave, on va faire émeute en Guadeloupe. Alors, tu es sur, à la télévision en train de discuter et on, effectivement, on parle de ces 7% de Français qui vivent dans les dom-tom et les pommes aussi, on appelle ça.
Absolument.
Et on a un appel d'un auditeur, on est sur France Bleu Région, on va dire, appel d'un auditeur que j'écoute pour la Guadeloupe.
Bonjour, moi c'est Mon Désert, je viens de la Guadeloupe et j'avais une petite question pour vous, cher candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que pour vous la Guadeloupe fait partie de la France? Parce que clairement, on dirait que tout le monde s'en fout. Il y a des gangs qui mettent le feu aux quartiers dans nos villes, qui brûlent des voitures, des magasins, et personne ne dit rien. Parce que la vraie insécurité, elle est ici. Alors moi je vous demande, que comptez-vous faire?
Que comptez-vous faire?
Il a raison. Il a raison, cet auditeur, Mon Désir, je crois, Mon Désir, vous avez raison. Le gouvernement actuel, comme tous les autres, ont abandonné nos territoires et nos départements d'outre-mer. Ils ont été abandonnés, comme finalement toutes les autres campagnes. C'est absolument scandaleux de savoir que ces territoires qui sont rattachés depuis si longtemps à la France, qui font partie de son ADN, qui font partie de ses traditions, qui font même partie de son identité, sont laissés pour compte. Il y avait un rattrapage à faire dans les dom-toms, il n'a pas été fait. Rendez-vous compte que Mayotte, alors je sais bien que vous me parlez de la Guadeloupe, mais Mayotte, cette belle île de Mayotte était française avant la ville de Nice et nous la laissons tomber.
Vous, président,
là-bas.
Que faites-vous pour la Guadeloupe, les émeutes qu'il y a actuellement?
Mais enfin, c'est simple, d'où viennent-elles ces émeutes?
Eh bien, je vous pose la question.
Elles viennent d'une inégalité territoriale criante, elles viennent de la pauvreté qu'il y a sur place, de l'absence de services publics, tout est plus cher, la vie est plus chère, parce qu'il y a des problématiques centrales en Outre-mer, il faut y acheminer évidemment les denrées, donc tout est plus cher, le chômage est galopant, mais pourquoi? Parce que nous n'avons pas assez investi. Donc, la proposition que j'ai faite, cette belle proposition de prendre aux villes pour donner au champ aidera également les territoires d'outre-mer. Mayotte, bien sûr, la Martinique, c'est évident, et la Guadeloupe, ça ne fait aucun doute.
Eh bien, tu as une excellente analyse de la Guadeloupe. On est là pour transmettre des informations. Effectivement, le problème de la Guadeloupe, c'est le prix, le coût de la vie et le chômage. Je te donne un point. Un précaire guadeloupéen qui est convaincu par toi, président, et qui votera pour toi.
Ouais.
C'est à Georges Sud. Georges Sud, dis-moi un chiffre entre 1 et 47.
47.
47.
Pas d'imagination.
Le convoi. Suivant un exemple canadien, un convoi de la liberté remonte vers Paris. Des camionneurs avec des motivations, on trouve pêle-mêle de la défiance, gilets jaunes, de la méfiance, de l'épuisement face aux contraintes sanitaires, une révolte contre le prix de l'essence. Beaucoup de gens parlent des gilets jaunes 2.0. La plupart des candidats se sont déjà exprimés sur le sujet, comme ça, souvent à distance, sans les rencontrer. Et toi, ton émeric qui te dit, tu sais quoi, si on allait les rencontrer avant qu'ils arrivent à Paris? Genre on les intercepte quand ils sont en banlieue et on appelle la télé, tout ça, et tu fais un truc solidaire. Ça t'intéresse?
Est-ce que je peux les rencontrer sans caméra?
Mais c'est ce qu'ont fait les autres. Et ça n'a rien fait. Donc là, si on est devant les caméras, tu vois, c'est non seulement tu es avec eux, mais voilà. Mais c'est un risque. Tu peux dire, je ne fais rien et tu fais rien.
Non, mais les rencontrer sans caméra et compter sur l'effet buzz, en fait. Tu
non.
Vois non, c'est pas possible.
Bah, c'est ce qu'ont fait les autres, mais ça n'a pas marché. Donc ah là, ouais, moi, je te propose de les rencontrer.
Bon, allez, vas-y.
C'est vrai?
Ouais.
Donc, on appelle BFM TV, CNews, comme ça, qui ont leur caméra.
Pas BFM TV, CNews, mais...
qui sont d'ailleurs en train d'interviewer ces gens-là. Et ils arrivent. Donc là, par exemple, il y a Xavier Régnier, Louis Bonnel, Geoffrey et Rebelle Teddy. Ils sont là. C'est des gens qui viennent de tweeter. Et ils sont des camionneurs. Donc, et là, ils disent « Ah, Georges Sud, donc vous soutenez notre mouvement ou pas ?»
Oui, non seulement votre mouvement, je le comprends. Je le comprends. Et vous savez, je suis là avec des équipes de télé. Et voilà, vous êtes en train de vous dire...
Ah, c'est vous qui les avez appelés ?
Exactement. Là, voilà. Là, vous vous dites, ah, il a ramené des équipes de télé, il veut se faire mousser. Mais vous savez quoi ? C'est pas moi qui vais parler, c'est vous. Je vous laisse la télé, elle est à vous la caméra. Vous dites ce que vous avez envie de dire. Et les gens sont là et ils vous écoutent. Parce que contrairement aux autres qui sont venus nous voir pour se faire mousser en espérant que ça buzz sur le net, moi, je viens et je vous laisse parler. Vous savez quoi, je dis rien, c'est à vous.
D'accord, mais par exemple, vous voulez être président.
Bien sûr, évidemment.
Le prix de l'essence, vous voulez faire quoi? Le prix de l'essence qui a augmenté.
Le prix de l'essence, vous savez que 80, je sais plus combien, c'est 80 ou 90% de l'essence, c'est des taxes.
Et donc vous allez les baisser?
De l'État, évidemment qu'il faut les baisser.
Et vous allez les baisser de combien?
Ah, ça, moi, je suis pas au poste de la présidence. Après, non, ça, c'est au ministre du budget.
Là, je vous parle d'homme à homme. Il y a Louis Bonnel qui te dit, je vous parle d'homme à homme. On se regarde dans les yeux.
Il faut
Est-ce que vous, président, vous passez de 90 à 20% de taxes, par exemple?
De 90 à 20% de taxes, il faut voir avec lui. Moi, je ne sais pas. Je suis
vous êtes
je
comme les autres, alors.
Moi, je postule pour être président de la République, pas ministre du budget. Hein.
Donc, mais vous êtes exactement comme les autres.
Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de ramener l'essence à son niveau d'avant la crise, c'est-à-dire d'avant les gilets jaunes, et ensuite, comme de là, on part de ce postulat.
Ça, c'est votre promesse de campagne.
Ça, c'est ma promesse de mi-campagne. Je m'y engage devant les caméras, et je suis aussi venu pour ça. Je suis aussi venu pour vous dire, regardez, la télé est là. Dites-leur ce que vous pouvez, dites-leur ce que vous voulez. Dites ce que vous pensez. Dites ce que vous avez sur le cœur. Parce qu'il est temps que les Français vous écoutent, parce que vous n'êtes pas assez écoutés.
Moi, je tiens votre parole et je vous avertis. Genre, je suis camionneur, je me laisse pas faire. Je viendrai vous voir si toutefois vous êtes élu et que vous faites pas le prix de l'essence comme avant.
Eh bien, vous savez quoi? En tout cas, je vous promets que je ferai tout mon possible pour baisser le prix et le ramener au niveau d'avant la crise.
D'accord. Alors, deuxième question. Le pass vaccinal, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Le masque, le pass.
Vous savez que bien sûr autres... que oui, évidemment. Vous êtes perdu comme tout le monde.
Ben oui, on veut que ça s'arrête. Est-ce que vous, président, ça va s'arrêter?
Mais évidemment qu'il faut que ça s'arrête. Il faut que les moyens soient mis dans les hôpitaux. Il faut que les moyens soient mis dans la prévention. Il faut que... Le gouvernement, il ne sait pas ce qu'il fait. On ouvre les fenêtres pour que le virus s'en va, mais ça n'a aucun sens.
Bon, écoute, c'était très convaincant. Tu gagnes un précariat. Bravo. Églantine, un chiffre entre 1 et 47.
7.
Alors, avant de faire ce chiffre 7, on le garde, il se passe quelque chose. C'est que tu as un certain Spotlight, on va l'appeler. Spotlight, c'est un ambassadeur chinois qui vient te voir.
Oui.
Et il te voit, il vient te voir en privé, il dit, écoutez, la Chine s'intéresse de près à l'élection présidentielle et vos propos sur l'interpellation de l'affaire Peng Shuai qui est en train d'être réglée en Chine, ne vous inquiétez pas, elle va très bien. Ben, on vous trouve excellente. Et on vous propose de venir en Chine pour faire, si vous étiez élu, la Chine serait contente. Est-ce que vous acceptez de venir en Chine? On vous filmera et on dira que vous avez des amis en Chine, par exemple. C'est bien pour votre image à l'international.
Eh ben, c'est parti.
C'est parti. Tu pars en Chine. Tu pars en Chine et tu vas à Shanghai. Et on te dit, vous allez recevoir... Alors, il y a plus de gens à Shanghai qu'en France. Et on vous allez être reçu par, on va dire, le responsable de l'industrie de Shanghai. Et on va peut-être signer un petit contrat. Enfin, peut-être s'engager, vous, présidente, on va vous acheter une ou deux centrales nucléaires. Par contre, il y a toujours Spotlight qui te dit, est-ce que Peng Shuai, on peut ne plus jamais en parler? Genre, je ne vous demande pas de dire, il y a un problème. Je vous dis juste, on n'en parle pas. Quand on vous pose la question, vous dites, no comment. Ça va?
En tant que ministre du budget, pour l'instant, ça devrait aller.
Ça devrait aller, ouais. D'accord, très bien.
Est-ce que c'est un voyage public?
C'est un voyage public, au contraire.
Est-ce qu'on peut réagir?
Pas tout de suite. D'accord. Pas tout de suite. Et donc...
Ah oui, c'est un voyage public, t'as dit, ouais.
Ah oui, c'est un voyage public.
C'est un voyage public.
Donc c'est un voyage public, sous les caméras de la Chine, il n'y a jamais eu autant de gens qui t'ont vu, parce que les Chinois, voilà. Et effectivement, tu parles et... les gens te considèrent comme si tu étais présidente française, ce qui est incroyable. Et notamment, il y a beaucoup de
stars. Ah, ils me considèrent comme présidente française?
Non, ils te considèrent comme si tu l'étais sur le point, tu vois.
Parce d'accord, qu'ils
sont en train de ils te présentent
favorite,
comme ça.
Favorite, quoi, ouais, favorite.
Ils commencent à parler marché, usine, tout ça.
Ok.
Ce qui fait qu'il y a deux entrepreneurs français et un super riche qui disent, mais elle est incroyable. Et tu gagnes tous ces gens-là.
D'accord.
Pour l'instant. Mais évidemment, tes adversaires ne vont pas manquer de réagir à cette mise en scène. Je vous laisse réagir si vous voulez.
Est-ce que... est-ce qu'on le fait par, genre par tweet?
Tu peux le faire comme tu veux, dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire?
Ben, peut-être par un petit tweet du genre écoutez, pendant que Madame Arnaud est en Chine, elle pourra peut-être nous ramener quelques photos des camps de concentration, hein, visiblement. Comme ça, si elle aime faire le voyage, on ne sera pas dépaysés.
Je fais un tweet également, évidemment, en disant que Madame Arnaud s'intéresse beaucoup plus aux problématiques chinoises qu'aux problématiques françaises, comme ce qu'a fait le gouvernement depuis le début, évidemment.
Une réaction ou pas ?
Absolument. Moi, je vais directement à la télévision. Alors, celle qui m'ouvre les bras. Probablement une radio locale, d'ailleurs. Et je réagis en disant que c'est un scandale. On voit bien Madame Arnoux, qui, rappelons-le, est quand même censée être membre du gouvernement français, qui se fait lobbyiste des intérêts chinois, qui accepte en public d'être muselée, de ne plus jamais parler de Peng Shuai, cette jeune femme qui connaît un sort absolument atroce. Et donc, non content d'avoir enfermé toute la population française et évidemment préparé uniformément sur tout le territoire à une dictature future, elle part en Chine pour prendre des leçons.
Alors, vous avez tous réagi. Il va se passer des choses, mais pour l'instant, il ne se passe rien. Pour l'instant, c'est la grande victoire de la candidate macroniste en Chine. Pendant ce temps, petit flashback. Nous sommes le 25 octobre 2021 et Éric Ciotti tweet le tweet suivant. Je combats le délire woke de toutes mes forces. Le wokisme est la nouvelle terreur du siècle. Je refuse l'effacement de notre histoire, de nos racines. Le wokisme, le mot est lâché. Tout le monde ne parle que de ça. Alors, peut-être qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire. Et en tout cas, ton Lucas, il te dit que tout le monde parle du wokisme. Il faut que tu t'exprimes. Je ne sais pas ce que c'est, mais il faut que tu t'exprimes sur le wokisme. Donc, dis quelque chose. Qu'est-ce que tu dis sur le wokisme ?
Qu'est-ce que je dis sur le wokisme ? Le problème, c'est qu'Éric Ciotti, il est toujours à l'air. Hein, on est d'accord. Hein.
Éric Ciotti l'a dit, mais c'est un exemple. Parce que tout le monde est en train d'en parler. Les chroniqueurs, sur CNews, c'est le wokisme et c'est l'effacement de notre culture. Il y a d'autres personnes qui disent, mais attendez, le wokisme, c'est plutôt autre chose. Qu'est-ce que tu dis, toi ?
Et je réagis par quelle voix ? C'est moi qui choisis ?
Tu peux me dire, je veux pas m'exprimer sur le sujet.
Et si je m'exprime pas sur le sujet, je peux m'exprimer plus tard sur le sujet ?
Non, c'est je vais demander à tes adversaires de s'exprimer et ce sera tout.
Attends, je réfléchis. Je m'exprime sur le sujet.
Oui.
En reprenant le terme de wokisme.
Oui.
En disant que je veux pas qu'on dénature la langue française, ce genre de choses, et que on se concentre sur des combats étranges, alors qu'il y a d'autres sujets plus importants à préoccuper, notamment l'économie.
Donc tu vas me donner un bobo et je te donne un retraité.
Mon bobo, c'est un militant.
Eh ben, tu ne perds rien. Hippolyte, le wokisme.
Le wokisme qui veut dire être éveillé en anglais, pourtant c'est une posture d'endormissement moral, mental. Évidemment, c'est encore une fois un constat de la France qui s'écroule sur elle-même et plutôt même de manière générale de la civilisation occidentale. Évidemment, le wokisme est un des plus grands cancers avec l'immigration de masse, évidemment, de notre société à l'heure actuelle. Le wokisme, c'est évidemment apprendre la théorie du genre à des enfants de 6 ans et demi. Le wokisme, c'est mettre des pronoms qui ne sont pas dans notre belle langue, la langue de Voltaire, la langue de Molière, la langue de Guillaume Musso, tous ces auteurs, évidemment. Je veux dire que le wokisme, c'est ce qui se fait le pire à l'heure actuelle et c'est vraiment quelque chose qui vient de la gauche à la base. C'est la gauchisation, l'islamo-gauchisme de notre université et c'est répugnant.
Tu me donnes un bobo, sauf s'ils sont tous les deux militants,
oui.
Bah, tu gardes tes bobos militants et tu gagnes un retraité.
C'est pour le retraité.
Rejocelyn, le wokisme.
Oui, mais moi, écoutez, je suis navré de ces débats. Alors, d'ailleurs, je suis navré qu'on considère que le seul problème que pose le wokisme est un problème de langue, comme si le seul problème du mot, c'était le mot lui-même et pas la chose qu'il désigne. Moi, je vais vous dire, les Français n'en peuvent plus, tous ces débats, de toutes ces choses, le wokisme. Personne ne parle de cela dans nos campagnes, mais enfin, descendez au bistrot. Je sais bien que personne ne le fait. Vous êtes tous des grands élus, des éditorialistes. Vous passez votre temps au Ritz, dans les grands hôtels, mais descendez au bistrot. Allez sur une place de village, parlez aux gens, tout simplement. Vous verrez qu'ils ne vous parlent pas du wokisme. Ce qui compte pour eux, c'est ce qu'ils ont à la fin du mois pour vivre. Ce qui compte pour eux, c'est ce qu'ils vont pouvoir se soigner.
Très bien, j'ai compris. Rien ne se passe. Et Georges Sud ?
Écoutez, les problématiques sociales sont devenues importantes pour les Français maintenant de nos jours. Concernant le sujet du wokisme, moi, tout ce que je vois, c'est que c'est encore une panique morale inventée de toutes pièces par la droite, l'extrême droite et leur allié, les quelques milliardaires sur les médias en place, pour qu'on change de sujet et qu'on arrête de parler des vrais problèmes des Français, que ce soit le pouvoir d'achat, les services publics. Et tout ce qui est important dans la vie de tous les jours.
C'est
donc,
très bien.
C'est important, c'est un sujet, il ne faut pas le négliger. C'est important pour les gens. Et si c'est important pour les gens, c'est important pour moi, parce que moi, je veux être président des gens.
Très bien. Eh bien, tu gagnes un bobo. Merci pour ça. Alors, Est-ce que tu te souviens de Cindy du Bastion Social? Ça dit quelque chose?
Bien sûr.
C'est l'ancienne rechargée de com qui a été virée. Elle était très, elle est très énervée. Elle a pas arrêté de pas. Elle a posé plein de posts Facebook, tout ça, et elle a une partie des électeurs de Jocelyn qui. Et elle vient te voir.
Oui.
Et elle te dit, on pourrait travailler ensemble.
Évidemment.
Est-ce que vous me prendrez comme responsable de com?
Bien sûr.
Eh bien, elle vient avec toi et avec elle, elle amène un certain nombre de tes électeurs. Donc, tu vas lui donner un électeur de ton choix.
Un électeur de mon choix?
Oui. Ça peut même être un militant, si tu veux.
Ah bon, mais un bobo.
Donc, tu peux. Donc, elle vient avec des bobos, bizarrement, mais bon. Et pour l'instant, Cindy est passée chez toi. On verra bien ce qui se passe. Donne-moi un chiffre entre 1 et 47.
2.
2, alors ça a été fait la dernière fois, mais on va faire le 3 qui s'appelle Malaise TV, je crois qu'on l'a déjà fait. Donc on va faire, très intéressant.
Enfin, j'aurais bien voulu faire Malaise TV.
Mais non, mais on l'a fait la dernière fois. Les jeunes avec. Alors, Sorel vient de voir et il te dit, on a un problème. Bah, tiens, c'est Cindy. Cindy, elle vient de voir, elle dit, j'ai analysé la situation. Vous avez un problème, c'est que les jeunes ne votent pas pour vous. Les jeunes ne vous aiment pas. Et ils ont tous des associations, les jeunes avec, et on n'a pas les jeunes avec Hippolyte. Donc, moi, je te propose de créer une fausse association, les jeunes avec Hippolyte. On fait un site web, voilà, et on trouve quelqu'un. Est-ce que ça t'intéresse?
Bien sûr que oui.
Alors, question, est-ce qu'on met le paquet pour faire ce site web? C'est-à-dire que si on fait juste un site web comme ça, ça va le faire, mais ça va être des stocks photos, ça peut être débunké. Si on met le paquet, on va mettre une partie du budget et le meeting, la prochaine fois, on aura moins de moyens. Donc, qu'est-ce qu'on fait?
On met le paquet. La communication sur Internet, c'est très important.
On met le paquet. Eh bien, écoute, tu gagnes 2 voix étudiantes immédiatement, mais il va peut-être se passer des choses par la suite.
Ah,
voilà. Donc, je te donne ces 2 voix.
Merci.
Et c'est bon pour le moment. Je me refais. Donc, voilà. Voici venu le temps d'un deuxième petit débat. Nous sommes cette fois-ci sur France Inter. Y a-t-il des débats sur France Inter?
Bien sûr qu'il y a des débats sur
France Inter. Allez, on est sur la radio voisine, France Inter.
Plus écoutée de France.
La radio la plus écoutée de France, pas n'importe quoi. Et nous sommes sur la... Alors, nous sommes devant... Excusez-moi, je retrouve... Nous sommes devant 1,7 million de téléspectateurs.
D'auditeurs
cette fois-ci. C'est retransmis aussi sur les chaînes.
Ah, le dimanche, on est à la fois sur France Inter et sur France Info Télé.
France Info Télé, voilà. Donc c'est à la fois aussi. Ça se passe un dimanche. Qui est le présentateur? Comme ça, je.
Ali Badou. Thomas Negaroff.
Thomas Negaroff.
C'était Ali Badou la saison d'avant.
Ce sera Thomas Negaroff. Vous êtes tous autour d'une table et nous allons parler du thème des impôts. C'est l'heure du débat sur les impôts. Comptez-vous les augmenter pour plus de justice sociale? Par exemple, pour les services publics, on en a parlé tout à l'heure, mais vous vous êtes engagé aussi à diminuer les taxes sur l'essence, Georges Sud. Ou au contraire, allez-vous les alléger pour libérer les Français du poids de la fiscalité? Jules de Kiss, parlons d'abord d'héritage.
On va parler de l'héritage parce que c'est part intégrante évidemment de la fiscalité, sujet connexe aux impôts. Il en a été question il y a quelques semaines dans cette campagne présidentielle et c'est toujours le cas. Hein, c'est un sujet latent qui pourrait revenir. Il faut d'abord préciser que même si on a parlé de l'héritage dans la campagne présidentielle, c'est d'abord un symbole parce qu'assez peu de Français payent des impôts sur les successions. Seul un quart des successions sont concernées et donc en tout, en France, chaque année, il y a environ 200 000 successions sur lesquelles on paye des taxes. Parce qu'il y a beaucoup d'exemptions. D'abord, on ne paye pas de droits de succession à la mort d'un conjoint, par exemple. Il y a des abattements aussi. On taxe rien jusqu'à 100 000 euros d'héritage par enfant. Alors, la France est-elle un pays qui taxe beaucoup par rapport aux pays étrangers? C'est une question qu'on peut se poser pour avoir des repères. Eh bien, par rapport à l'étranger, la réponse est oui. On va écouter les précisions du service éco de France Info à ce sujet.
La France arrive au troisième rang des pays les plus taxeurs au sein des pays industrialisés, derrière la Corée du Sud et la Belgique. En valeur absolue, cela représente presque 16 milliards d'euros de recettes l'an passé pour l'État. Un montant toutefois limité par les niches fiscales et les abattements, d'où un rapport quelque peu explosif remis au gouvernement en décembre dernier par plusieurs économistes. Il plaide pour la suppression de la plupart de ces niches, considérées comme des facteurs d'aggravation des inégalités de naissance. Elles permettraient de faire échapper à l'impôt 35 à 40% du patrimoine transmis par héritage et profiteraient essentiellement aux 1% des Français les plus riches. alors que les droits de succession font partie des impôts évolutifs, donc censés contribuer à la redistribution des revenus au sein de la société.
Voilà, impôt redistributif pour plus de justice sociale. C'est un impôt progressif aussi, il faut le rappeler, un peu comme l'impôt sur le revenu. Plus on hérite, plus on paye, de 5 à 45%. Et je vais vous donner un chiffre qui va vous intéresser, cher candidat. D'après un sondage du journal Les Échos, paru le mois dernier, 81% des Français souhaitent une baisse des droits de succession.
81%, Hippolyte. 8 Français sur 10 sont pour qu'on taxe moins leur héritage. Et vous, doit-on laisser les Français transmettre le patrimoine, mais et plus librement à leurs enfants, ou au contraire redistribuer davantage? Mais attention, plus on laisse les Français transmettre leur héritage, moins on a finalement de nivellement social. Donc quel est votre avis, vous?
Moi, je suis pour laisser un libre, comment dire, que l'héritage puisse...
À 100%,
il est normal que si j'ai travaillé toute ma vie, mes enfants puissent en profiter. Et leurs enfants également.
Et donc des héritages, par exemple, disons de 300 millions, les enfants héritent de 300 millions.
Tout à fait, absolument.
D'accord.
Ils héritent de 300 millions, oui, effectivement, tout à fait.
D'accord. Et bah, écoutez, au moins c'est clair.
Il faut arrêter de faire peser sur les Français. Déjà, la perte d'un proche, c'est quelque chose de terrible. On est bien d'accord. Oui. La perte d'un proche, c'est quelque chose de terrible. En plus de ça, on se retrouve... noyé sous des papiers, à payer on ne sait quelle somme. C'est pas possible. Ça ne peut plus durer. Les Français n'en peuvent plus. Et c'est tout à fait normal.
Églantine, est-ce que vous partagez l'avis de votre concurrent Hippolyte sur la redistribution des richesses? Lui, il veut 100% de l'héritage et aux enfants. Et vous?
Alors, je ne le partagerai pas parce que je suis plus en nuance que ça. Effectivement, il faut alléger les taxes sur les successions. C'est quelque chose qui concerne beaucoup de Français et une thématique qui revient régulièrement. Donc, je pense qu'il faut répondre à ces attentes-là. Nous y travaillons et nous allons continuer d'y travailler.
Donc, par exemple, vous seriez pour un allègement, mais pas une suppression, c'est ça?
Il y aura toujours une taxe sur la succession, mais bien moindre, de telle sorte à ce qu'on puisse tout de même alimenter le budget pour nos services publics, notamment pour la répartition des richesses, mais quelque chose qui est beaucoup plus léger qu'avant, pour qu'effectivement il y ait une transmission de l'héritage. Effectivement, c'est pour me déplaire, mais je le rejoins sur le fait qu'effectivement, quand nos parents ont travaillé toute leur vie, la moindre des choses, c'est quand même que ça puisse bénéficier à leurs propres enfants, puisqu'ils font ça dans ce but-là. Donc si on leur enlève 50%, 25% de leur revenu, ça c'est pas possible.
Alors pourquoi vous n'avez rien fait ces dernières années?
C'est un travail, nous ne pouvons pas faire ça du jour au lendemain. On a eu une petite crise sanitaire au passage, ne nous a pas échappé, mais peut-être que vous étiez trop occupé à être sur complot.com.
Je vais faire la réunion, je comprends, c'est difficile.
Ça tombe bien, Georges Sud, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de la taxe sur l'héritage?
Écoutez, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que là, mes chers collègues sont en train de prendre l'exemple du petit ouvrier qui a travaillé toute sa vie pour léguer quelques milliers d'euros à son enfant. Moi, j'ai envie de vous dire, mes collègues sont en train de vous mentir, mais bon, ça, la force des Français en ont l'habitude, puisque les héritages ne sont pas taxés en dessous d'une certaine somme. Donc, s'ils avaient coûté...
100 000 euros par enfant.
S'ils avaient écouté ce qui s'est passé avant, ils sauraient que la plupart des gens n'ont pas 100 000 euros à léguer à leur enfant. Hein, donc évidemment, il faut alléger, voire supprimer les taxes d'héritage sur les tout petites, sur les toutes petites donations. Mais il faut surtout complètement supprimer les niches fiscales, parce que évidemment, quand on est millionnaire, on a les moyens de se payer un conseiller fiscal qui va vous expliquer comment vous détourner un maximum de pognon.
Comme Johnny Hallyday, vous voulez dire.
Mais qu'est-ce que vous... Johnny Hallyday, il est déjà sérieux. Comment parler?
Je reprends juste vos propos.
On est en train de parler d'héritage. Mais vous êtes fadas, c'est
pas possible. Français qui est
Johnny Hallyday. Qu'est-ce qu'il a passé, Johnny Hallyday? C'est
non,
ton papa ou quoi?
Une réponse documentée de Georges Sud.
Désolé, j'aime juste la France.
Même si effectivement il a un passif. Merci en tout cas de nous avoir éclairé. Jocelyn, qu'est-ce que vous en pensez?
Écoutez, je pense qu'il faut être sérieux sur cette question et ne pas parler avec des grands chiffres et des grands airs comme tout le monde le fait autour de cette table. La question qu'il faut se poser, c'est que veulent les Français? Elle est simple. Ils veulent pouvoir transmettre à leurs enfants la maison qu'ils ont eux-mêmes reçue de leurs parents. Exactement. Ou qu'ils ont travaillé toute leur vie pour se payer. C'est tout ce qu'ils veulent. Donc moi, ma proposition, elle est simple et elle va permettre de reprendre un peu d'argent aux villes pour leur donner à la France des champs. La proposition que je fais est la suivante. Aucun impôt de succession quand on transmet une maison à la campagne. Pour quelle raison? Parce qu'une maison à la campagne, c'est toujours une maison de famille. Personne n'investit à la campagne pour mettre sa maison en location. Donc, aucun impôt de succession. Par contre,
sur les villes. Dès lors que vous léguez plus d'un appartement à vos enfants et que donc vous êtes un grand propriétaire qui avait acheté des tonnes d'appartements pour les mettre en location, alors là, monsieur Hippolyte Léveillé, on n'est pas noyé sous la paperasse, comme vous le dites, on est noyé sous la pierre et sous l'argent. Donc, les résidences secondaires en ville, celles qu'on met en location, on les taxe énormément pour, comme je le disais, redonner l'argent aux campagnes et on arrête d'emmerder les Français avec leurs résidences. Et monsieur,
oui, c'est pas qu'une question de maison, c'est une question de maison, capital, monsieur. Également.
Et je vous rappelle, et je vous rappelle, monsieur,
de capital et de finance,
parce que vous habitez à Toulouse.
Avec le système de actuellement, c'est le seul moyen de créer une famille, de créer.
Vous habitez à Toulouse. Vous êtes totalement déconnecté de la réalité de nos campagnes. Si vous avez une maison que vous avez reçue de vos parents et qu'elle est sur l'île de Ré ou sur l'île de Groix ou sur à Belle-Île, qui sont
monsieur,
des joyaux
de nos
citoyens, cette maison,
donc,
c'est une maison traditionnelle.
Qu'il n'y a pas de précaire en ville, selon vous, monsieur.
Cette maison, c'est une maison. Mais ils ont tous les services publics en ville, monsieur. Ils ont tous les services publics. Mais c'est peut-être pas suffisant. Mais commençons par s'occuper de nos concitoyens qui souffrent le plus. Ceux qui souffrent le plus, monsieur. Ceux qui souffrent le plus sont nos concitoyens de la campagne. Et je vois qu'ici, mais vous êtes toutes et tous des
monsieur
urbains
Saint-Jean,
et des urbaines. Vous
je suis très étonnée par quelque chose, parce que vous dites que les campagnes sont dévalorisées, qu'on ne peut plus
elles
trouver
sont,
service public et tout
elles
ça.
Le sont.
Sauf
encore
que
faudrait-il y aller pour s'en rendre
les
compte.
Maisons à la campagne, quand on a une maison de campagne, c'est un bien qu'on ne peut pas utiliser au quotidien. C'est une maison vacante.
Mais parce qu'on
donc
a reçu
les
de ses parents,
les
on a quand même le droit d'avoir une
c'est
maison qu'on a reçue de ses parents.
Je ne comprends pas votre raisonnement.
On a quand même le droit d'avoir des souvenirs. D'être attaché à un territoire.
Ça tue les bourgs, ça tue les bourgs.
Mais vous n'êtes une Française de nulle part, madame. Vous n'avez pas de racines. Vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir ce que vit le Français qui se voit dépossédé de sa maison sur l'île de Ré parce qu'elle a pris artificiellement de la valeur et que l'État vient lui voler.
Nous avons entendu. Si ce monsieur nous accuse d'être déconnecté entre la ville et la campagne, lui est complètement déconnecté de la France.
Je vous assure qu'il n'est.
Allez, dernier mot pour Hippolyte.
Je vous assure qu'il n'est pas déconnecté de la réalité. Je l'ai lu dans sa biographie qu'il avait fait écrire par sa collaboratrice pendant son temps de travail, évidemment.
C'est faux, c'est un
très
mensonge.
Très bien, au-delà de
sait.
La question de l'héritage, il y a cette question
c'est
plus
faux,
large qui nous concerne presque tous, en tout cas. Les Français payent-ils... Oh, il y a quelques personnes qui ne payent pas trop d'impôts. Hein,
la TVA,
quand même.
Tout le monde la paye. Ouais,
les Français payent-ils trop d'impôts et de taxes? Oh, moi, j'arrive à beaucoup défiscaliser. La fiscalité, c'est un sujet politiquement sensible, Jules.
Évidemment, on se souvient du mouvement des Gilets jaunes que vous avez déjà cité, qui partait d'une hausse de la taxe sur les carburants. On peut aussi remonter au bonnet rouge un peu avant, opposition bretonne à la taxe carbone sur nos routes. Même si l'on sait que c'est pour la bonne cause, par exemple pour le changement climatique, pour la redistribution, il y a ce sentiment qu'on est trop taxé tout le temps, partout, avec la TVA par exemple, l'impôt sur le revenu et puis les impôts sur le patrimoine. Figurez-vous que même les piscines sont taxés. Vous construisez une piscine dans votre jardin, vous devez la déclarer et vous devez payer un impôt. Et comme tout le monde ne le fait pas, eh bien le fisc a décidé d'utiliser Google Maps pour traquer les fraudeurs. Expérimentation en cours dans 9 départements depuis le mois de septembre dernier. Et rien que dans les Bouches-du-Rhône et le Var, 12 000 piscines non déclarées ont été détectées grâce à ce stratagème. Explication de France Bleu Provence pour France Info.
C'est un logiciel informatique, un algorithme déployé avec le soutien de Google et de Capgemini qui permet aux services fiscaux de repérer les piscines non déclarées et donc non taxées. Pascal Rotet est le directeur départemental des finances publiques du Var.
L'intelligence artificielle permet, en croisant ces algorithmes avec les photos aériennes de l'Institut géographique national, d'identifier toutes les modifications qui n'auraient pas encore été déclarées par les propriétaires des biens.
Si une piscine non déclarée est détectée, un agent des impôts contrôle systématiquement le dossier. Il vérifie que l'intelligence artificielle a vu juste et s'il y a doute, il peut même se déplacer chez le propriétaire. Ondine Aquaviva des finances publiques du Var.
En effet, parce qu'une photo aérienne, vous avez une piscine, c'est vrai qu'on peut avoir une bâche bleue qui peut y ressembler, donc il est important de corroborer par la présence humaine ces détections.
Si la fraude est avérée, le contribuable reçoit un courrier. Les premières lettres vont partir dans les semaines qui viennent.
Chaque propriétaire se verra adresser une demande de rectification et dans l'hypothèse où tel ou tel refuserait de s'y plier, il serait en plus assujetti au paiement d'une amende. Et de toute manière, vous aurez à payer l'augmentation correspondant à la refiscalisation de votre bien.
Le montant de l'amende peut aller jusqu'à 150 euros.
Donc, vous avez une bonne idée du dispositif, hein, la traque des fraudeurs à la déclaration des piscines grâce à Google Maps. Il y a des gens que vous n'avez pas entendus, ceux qui vous intéressent, les Français, bien sûr. On va voir comment ils réagissent sur place. Il y a les pour et puis il y a surtout les contre.
C'est une inquisition supplémentaire, c'est tout. Ça devient insupportable, on devient fliqué partout.
Et c'est encore un espionnage de plus. Voilà, c'est toujours pareil, on est toujours espionné, toujours. Que ce soit pas en haut ou en bas, c'est toujours pareil.
Vous avez vous-même une piscine ?
Oui, mais comme elle est hors sol, j'ai pas besoin de la déclarer.
Est-ce que vous savez que le fisc fait appel à Google Maps pour surveiller les piscines et les extensions qui n'ont pas été déclarées ?
Je trouve que c'est une bonne chose. Je trouve que c'est tout à fait normal, parce que ça doit être déclaré. Et je trouve que c'est volé la société.
Vous pensez qu'il y en a dans le quartier ?
Sûrement.
C'est n'importe quoi. La piscine, on la paye. Il y a la TVA déjà sur la piscine. Et ensuite, il faut payer des taxes. Bientôt, on payera l'ensoleillement et les arbres dans le jardin.
Une piscine, on paye 200 euros de taxes d'aménagement par mètre carré de piscine au moment où on la construit. Et puis après avoir une piscine, ça augmente le montant de la taxe d'habitation et de la taxe foncière. Taxe d'habitation pour ceux qui la payent encore.
Des intelligences artificielles qui fliquent les Français pour vérifier s'ils ont bien des piscines. Une TVA à 5,5 qui est réduite, mais qui existe vraiment sur les produits de première nécessité. Est-ce que c'est normal, Églantine ?
Ça me semble assez normal de respecter les règles de droit, en fait, quand elles sont écrites très clairement. Alors après, peut-être qu'effectivement, il faudrait voir dans quelle mesure on ne peut pas essayer de baisser les coûts de taxation pour la piscine. Mais la déclaration me semble indispensable, sachant qu'en plus, cela a des conséquences écologiques sur le long terme. Ça me semble logique que ce soit un minimum taxé.
Je propose à Mme Églantine de faire mieux, se balade avec un hélicoptère au-dessus des quartiers, avec une lance-roquette, et qu'il y a une piscine non déclarée, tire dessus. Comme ça, ça va plus vite.
Non mais monsieur, hein, vous faites des raccourcis là tout de suite.
Là où Églantine a raison, c'est que finalement, il y a des Français qui fraudent la loi, tout simplement. Et que
c'est de la chasse aux pauvres, comme
non,
d'habitude.
La loi, c'est la loi, monsieur.
C'est de la chasse aux pauvres. Si c'est la loi,
les pauvres ont des piscines.
La loi, c'est la loi, mais sauf pour vos petits copains, les milliardaires.
La chasse aux pauvres avec leurs piscines. C'est ça, monsieur Sud.
Mais la chasse aux pauvres, oui, la chasse aux classes moyennes. C'est ça dont on parle, oui, parce que vous croyez bien que le fisc, bizarrement, il n'a pas autre chose à foutre que d'aller chercher les millions cachés par des entreprises dans des paradis fiscaux. Ils vont aller chasser le pauvre type qui a économisé toute sa vie pour construire une piscine dans son jardin.
C'est une bonne question, je vous reprends sur les pauvres.
Bon, une fois, on se rejoint.
Seriez-vous d'accord pour l'impôt sur la fortune, pour le durcir, par exemple ?
Mais évidemment que oui, bien sûr. Vous vous rendez compte combien... Déjà, l'impôt sur la fortune, soyons clairs, il n'est pas appliqué. Hein, parce qu'on est là à dire...
L'impôt sur la fortune immobilière, il a été...
Oui, réformé. C'est ça, tout à fait.
L'impôt sur la fortune, il n'est pas appliqué comme il devrait être. Il y a des millions, des milliards qui sont... C'est le premier poste sur lequel on pourrait récupérer de l'argent dans ce pays. C'est les milliards qui ne sont pas payés par les Français les plus riches et par les entreprises qui détournent des dizaines de milliards chaque année entre le CICE, qui est une connerie pas possible, et les milliards qui sont détournés par les entreprises qui ne payent pas leurs impôts en déclarant leurs bénéfices.
On ne parle pas des entreprises,
comme
on parle
Johnny
des Français.
Hallyday, par exemple.
Johnny Hallyday, c'est une entreprise, monsieur.
Il me semble que c'était tout de même une manne financière.
Mais en tout cas, on a compris, vous êtes pour moins de flicage et pour durcir les impôts pour les riches.
Je suis pour durcir, déjà je suis pour appliquer les impôts tels qu'ils devraient être. Parce que là, le problème, c'est qu'encore une fois, on revient toujours au même souci, c'est que les riches, eux, ils ont les moyens de payer des conseillers fiscaux qui leur expliquent comment détourner l'argent, alors que monsieur Machin, qui vit au fond de la Creuse, lui, il ne sait pas le faire et il est obligé de tout payer. Personne ne lui demande, personne ne va l'aider.
Oui, Jules.
Je me permets d'ajouter quelques éléments factuels pour nourrir éventuellement le débat. Il y a un impôt qu'on paye tous, riches comme pauvres. Il y a la question de savoir s'il est égalitaire ou si c'est de l'équité, mais c'est la TVA, 150 milliards de recettes par an, c'est la première source de recettes fiscales. Et puis il y a l'impôt sur le revenu, ça c'est la deuxième, 80 milliards par an, et un Français sur deux paye cet impôt sur le revenu. Mais ça concerne beaucoup de Français peut-être, c'est intéressant, la TVA on la paye tous.
La TVA on la paye tous. Et Jocelyn ?
Non, mais j'allais répondre sur le fond, mais avant, excusez-moi, il faut que je revienne tout de même. J'ai entendu Monsieur Sud, qui pourtant tenait jusqu'à présent des propos pour une fois relativement sensés, mais je l'ai entendu parler de Monsieur Machin qui habite dans la Creuse.
Quel mépris.
Et il vient nous expliquer d'ailleurs qu'il ne méprise pas les Français de la campagne, les Français des champs.
Persuadé que si vous me donnez 5 minutes, je vous trouve un Monsieur Machin qui vit dans la Creuse.
J'en suis sûr. Continuez avec votre mépris, c'est très bien. Enfoncez-vous. Moi, ce que je veux vous dire, Monsieur Tigre, c'est qu'il y a tout dans le reportage que vous avez forgé.
justement diffusé Les Français ont tout dit, Inquisition, espionnage. On n'a pas fini d'emmerder les Français de la campagne. Maintenant, pour tremper ses bains, ses pieds dans une piscine, il faut payer une taxe. Madame nous dit, la loi, c'est la loi. Madame, la loi, c'est vous qui l'avez faite. Alors c'est un peu facile, vous pourriez la changer également. C'est ce que je proposerais. Et par ailleurs...
Donc vous, président, que proposez-vous ?
Attendez, moi, président, je propose d'arrêter de taxer, de surtaxer les Français qui vivent à la campagne. Vous voulez une piscine ? Vous êtes taxé. Vous avez besoin de vous déplacer pour aller au travail ? Vous êtes taxé sur votre carburant, plus de 90% de taxes. Vous avez raison, monsieur, pour une fois. Vous voulez vous chauffer ? Vous êtes taxé. Se chauffer coûte de plus en plus cher. Et à la campagne, on n'est pas comme vous dans vos villes, avec vos petits appartements de 30 mètres carrés.
Vous ne parlez pas d'impôts, là. Parce que se chauffer, c'est l'énergétique. Et d'ailleurs, vous accusez
un glantine. Parce qu'il n'y a pas de taxe, monsieur Fibre, sur l'électricité, sur le fuel, sur le gaz.
Il y a des aides énergétiques, en
tout cas. Bien sûr qu'il y a des taxes. Donc, moi, ce que je dis, c'est enfin, détaxons les Français qui essayent simplement de vivre, simplement de survivre même aujourd'hui.
Alors, Hippolyte, je vous vois acquiescer. Ah oui, Glantine, vous voulez réagir ?
C'est qu'en fait, ces deux messieurs ont toujours cette même réaction de plus de services publics, mais pas de taxes.
Si, pour les villes. Pour les villes, pour les gens comme vous qui ont 50 appartements qui
ne mettent pas de location.
Vous êtes effectivement des taxes.
Je voulais donner ma solution.
Campagne.
Moi, les taxes, je les trouve chez vos petits copains milliardaires. Ah, ça, ils vont pas aimer, c'est sûr.
Ça va tout régler, ça, c'est sûr.
Ah, bah oui, ça va tout régler. Binaire, oui. Vous voulez qu'on compare les montants de la fraude à la piscine avec les gens qui vont aller chercher sur Google Maps, là. En plus, vous donnez ça à une entreprise, merci. Des gens qui vont aller chercher sur Google Maps s'il n'y a pas quelqu'un qui a une vieille piscine dans son jardin. Et ceux qui fraudent les milliards, littéralement des dizaines de milliards, dans les entreprises, dans des paradis fiscaux.
Mais la fuite de cerveau à l'étranger, du coup. C'est ça ce que vous voulez.
La France ne soit pas une terre d'accueil. Sur le sujet. Hippolyte, je l'ai vu acquiescer beaucoup de fois à Jocelyn, presque une fusion de partis, parce que je sais que d'ailleurs qu'il y a des anciens de chez Jocelyn qui sont
bien
chez vous.
Bien sûr, Cindy, évidemment.
Oui, enfin.
Cindy, vous vous rappelez.
Elle est surtout chez vous. Hein.
Oui, bien sûr, c'est pas celle qui a écrit votre biographie, me semble.
Donc, encore une fois, un mensonge, monsieur.
Un mensonge, oui, jamais démenti, mais très bien.
Un mensonge.
Non, oui, évidemment, j'étais tout à fait d'accord avec la plupart des propos de monsieur Saint-Jean, mis à part, encore une fois, cette obsession bizarre sur les villes comme si... Tous les gens des villes étaient des riches, des bourgeois, des bobos.
Alors parce que c'est pas votre cas, vous, peut-être. Éditorialiste qui avait votre rond de serviette depuis des années dans tous les médias.
Excusez-moi.
Vous n'avez pas écrit des livres.
Je n'habite pas à Paris.
Vous n'avez pas écrit des livres qui vous ont rendu millionnaire, monsieur.
J'ai écrit mes propres livres,
oui,
monsieur.
Oui, qui vous ont rendu millionnaire. Alors c'est sûr que ça vous dérange. Écoute, c'est sûr que c'est plus facile de proposer la baisse des taxes quand on a soi-même à en rendre compte et à les payer.
Moi, les Français viennent me parler. Et ils sont d'accord avec vous sur le fait qu'il faut, arrêter.
Oui, ils sont d'accord avec moi, en effet. Ils sont d'accord avec moi, monsieur.
Il faut arrêter de les noyer, y compris dans leur piscine, sans mauvais jeu de mots évidemment. Quand on voit que 12 000 piscines sont non déclarées, on croit marcher sur la tête. Déclarer sa piscine, non mais c'est quand même fou. Et quand j'entends Monsieur Sud, dire que les taxes, on les trouvera chez les riches. Mais si Monsieur Sud est élu, les riches, il n'y en aura plus dans ce pays.
Exactement.
Ils vont partir.
Ils
vont partir à l'étranger.
Comme on l'explique, que les
Monsieur
riches vont partir.
Monsieur
et
Sud.
Les riches, ils sont... Vous savez ce qu'il faut aux États-Unis,
monsieur...
Ce qu'il faut aux États-Unis, peu importe que tu habites à Washington ou à Pétahouchnock, ils te taxent quand même. Eh ben, c'est ça qu'on va faire ici. C'est ça qu'on va faire en France.
Vous souhaitez avoir une politique des taxes comme aux États-Unis, c'est ça, Monsieur Sud ?
Non, je propose qu'on fasse le même système qu'il faut aux États-Unis, c'est-à-dire si jamais vous allez à l'étranger, vous êtes français, vous continuez à être taxé en France.
Ah, je vois.
Ah oui,
donc
ça c'est une très mauvaise connaissance en fait du système fiscal international, puisqu'en fait ça ne marche pas comme ça le droit. On ne peut pas appliquer le droit à l'étranger.
Ah, ça marche
bon
pas comme ça quand ça vous arrange.
Non,
oui,
mais
parce
ça
pour
c'est
les Américains
c'est...
ça marche
si
bien. Eux, ils l'appliquent, madame.
Si vous aviez appris le droit, ne serait-ce que deux heures, vous seriez
dans le sud.
On peut passer une convention fiscale.
Dernier mot
politique. Pays par pays.
Et c'est par contre une immigration massive de gens précaires qui ne rapporteront probablement pas grand-chose au pays, ça ne le dérange absolument pas.
C'est pas tout à fait le sujet. Oui,
non, mais
je l'ai le dernier mot.
Ouais, c'est juste qu'il y a eu une forme de consensus sur baisser la pression fiscale, notamment sur les carburants. Nos candidats s'emballent un peu, 90%, c'est un peu beaucoup. On est plutôt autour de 60% de taxes.
Oh, c'est beaucoup.
C'est largement trop. Vous avez une marge de manœuvre, cher
c'est
candidat.
C'est largement trop.
Mais je tenais à apporter cette précision.
Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut savoir les résultats des votes des Français ? Des spectateurs plutôt, qui a été le plus pertinent sur ce débat sur les impôts. Et Georges Sud gagne haut la main. Voilà, le peuple. Alors, j'avais plein de super riches dans la main, du coup, je les enlève.
C'est facile quand on est des magots.
Parce qu'ils te détestent, voilà. Mais je te donne de la classe moyenne, des bobos, tiens, voilà.
Même plus les
voix,
là.
Tu gagnes 5 voix. Et
j'ai une question technique sur le jeu.
Oui.
En fait, tes voix sont limitées. C'est-à-dire, t'as un certain nombre.
Non, mes voix sont limitées parce que j'ai pas plus de voix qu'il y a de Français qui votent modulo l'abstentionnisme. Donc voilà. Mais par contre, j'en ai, par exemple, là, j'ai presque plus de classe moyenne. Mais bon, d'accord. C'est pour ça que. Mais peu importe. En tout cas, la deuxième personne, c'est 16, 17. C'est Hippolyte. Hippolyte, tu peux prendre deux voix chez qui tu veux.
Oh bah chez Monsieur Sud, les deux.
Tu veux quoi?
Oh. Ce que tu peux donner ce que tu veux, Georges Sud.
D'accord, n'importe quoi.
Et nous allons reprendre un dernier round d'aventure, enfin pas d'aventure, de stratégie d'abord. Et je crois que je vais me tourner.
Je te jette un bobo.
Je vais me tourner vers Jocelyn.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.